Silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM www.re2m.org. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi?
Oui, aussi, bah, tu sais, hein, je le dis à chaque fois parce que je le pense vraiment, dès que je suis avec les auditeurs, bah, je me sens super bien, et toi aussi, je le sais. Et oui, ça nous fait du bien hein, d'être avec eux.
C'est ça.
Alors par quoi on va commencer ?
Oui, avant de commencer par les sorties cinématographiques de la semaine, tu tenais à faire un hommage à un artiste qui nous a quittés il y a quelques jours de ça, oui, c'est Jacques oui. Perrin.
Jacques Perrin, eh oui, Jacques Perrin, acteur, producteur, producteur délégué. Enfin voilà, il était né le 13 juillet 1941 à Paris et il est décédé le 21 avril 2022 à Paris. Il avait 80 ans. C'est bien regrettable parce que c'était un grand acteur mais aussi un grand producteur et il aurait pu faire encore pas mal de choses. Alors on va quand même être étonné parce que il est décédé à 80 ans mais il a 75 ans de carrière et tu vas me demander pourquoi 75 ans de carrière.
Il a commencé à l'âge de
50 ans. Bah oui, de c'est différence ça entre la date de son décès et son début. Eh bien parce que justement il a commencé tout petit à l'âge de 5 ans dans un film formidable, un très très beau film, Les Portes de la Nuit. C'est un film de Marcel Carné qui est sorti en 1946 et il jouait donc un enfant là dans ce film. Effectivement, tout mignon avec son petit visage et ses cheveux blonds. Voilà. Et donc il avait 5 ans, ce qui fait que c'était un... Après, il a continué. Hein, le deuxième film, il avait 15 ans. Voilà, il s'est pas arrêté en fait. Il a toujours beaucoup travaillé. Il y a 142 tournages quand même pour lui, ce qui prouve qu'il a beaucoup travaillé. Il a 6 prix et 12 nominations. Eh oui. Et donc il est officier de réserve citoyenne de la Marine nationale. Il a le grade de capitaine de frégate. Enfin, je dis là parce qu'on a toujours l'impression qu'il est là. Il avait, bon, voilà, ça me gêne toujours un peu d'utiliser l'imparfait. Je voudrais tellement que ce soit toujours au présent. Il était membre de l'Académie des Beaux-Arts. Il a été élu d'ailleurs le 7 décembre 2016. Il était très très content. Il y a des photos de lui. Mes chéris, si vous voulez voir des photos sur Internet, on voit des photos de lui avec le costume d'académicien avec sa famille, son épouse, très très de très jolies photos. Il était commandeur de l'ordre national du mérite. Il était commandeur de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Voilà Monsieur Perrin. Donc en 2011, il a reçu le César du meilleur documentaire pour un documentaire dont tu dois avoir entendu parler, Damien, Océan, ça s'appelait.
Ah oui. Oui, oui, tout à fait.
Très, très joli documentaire, très beau, oh là là. On peut le trouver en DVD, pas cher du tout, franchement. Il ne sera pas honte à la vidéothèque non plus, celui-là. Il l'avait réalisé avec Jacques Clouzot. Jacques Clouzot, c'est un réalisateur scénariste français avec qui il a beaucoup travaillé, Jacques Perrin. Et il disait, Océan, être poisson parmi les poissons. C'est ça. Et puis en 2001, il a réalisé aussi, enfin il a surtout produit Le Peuple Migrateur. On en a énormément parlé de ce documentaire merveilleux, magnifique, pareil. Il faut l'avoir avec soi, ne serait-ce que pour montrer aux enfants toutes les beautés de la planète. En 2010, c'était L'Empire du Milieu du Sud, un très très beau documentaire également. En 2016, c'était Les Saisons, magnifique aussi. Ben voilà, c'est le mot qui convient, je n'en trouve pas d'autre. Tous ces documentaires sont absolument magnifiques. Il a été acteur entre 1946 et 2022. Hein, il a énormément tourné. Et dans sa vie privée, il était marié à Valentine Perrin. Il a été marié avec elle de très 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 longues années. Voilà. Là, pour les petits curieux, on peut dire qu'il avait avec elle, il a eu deux enfants, Maxence et Lancelot. Voilà. Et puis il est l'oncle du réalisateur Christophe Baratier. C'est le fils de sa sœur Eva. On a souvent parlé de Christophe Baratier. On le connaît, n'est-ce pas, Damien?
Oui.
Christophe
oui.
Baratier. Oh ben oui, parce que Christophe Baratier, quand même, on lui doit, mine de rien, Les Choristes en 2004, Faubourg 36 en 2008, produit d'ailleurs par Jacques Perrin. En 2011, c'était La Nouvelle Guerre des Boutons. Mmh, en 2022, Le Temps des Secrets. On en a parlé il n'y a pas longtemps.
On en a parlé
souviens,
il y a très,
les souvenirs
très récemment,
d'enfance,
oui.
Voilà,
oui.
De Marcel Pagnol. Donc, c'est son neveu. Je pense que quand même, dans cette famille, il y avait de grands, grands artistes, finalement, qui sont tous très, très doués. Voilà, c'est comme ça. Il a fondé, en 1968, sa propre société de production qui s'appelle Regan Film et qui prend notamment en charge plusieurs films de Constantin Costa-Gavra. Ah, le grand Costa-Gavra, dont Z, en 1968, d'ailleurs, qu'il a produit, qui est un film merveilleux, ainsi que Le Crabe Tambour, de Pierre Schoenderfer en 1977. Il a produit autant de films dans lesquels il est très très souvent acteur d'ailleurs. Hein. Et dans les années 80-90, il se consacre surtout à la télévision. Il a produit de plus en plus sur les thèmes qui lui tiennent à cœur. Hein. Voilà, en 94, il compile 300 extraits de films dans Les Enfants de Lumière. Il met son œuvre surtout sur des documentaires qui sont consacrés justement à la nature. Alors, tu as entendu parler de microcosmos, n'est-ce
oui.
pas
ah,
Le
oui,
peuple
ça...
de l'herbe.
Très, très beau documentaire.
Ah oui, sorti en 96, qui lui vaut le César du meilleur producteur. Et puis, on a Himalaya aussi, L'enfance d'un chef, qui est sorti en 1999 de Éric Vallée et qui est produit donc par Jacques Perrin. Le peuple migrateur, on en a parlé tout à l'heure. Il a continué en parallèle dans sa carrière d'acteur, en fait. Hein, et voilà, parce que c'était aussi un grand acteur. Il a produit Mia et le lion blanc en 2016, qui a eu beaucoup de succès. Beaucoup, beaucoup. Puis c'est illustré dans Rémi sans famille. D'ailleurs, il incarnait le héros âgé dans Rémi sans famille. Sa dernière apparition à l'écran, en fait, est au générique du thriller Goliath, qui est sorti le 9 mars 2022, aux côtés de Gilles Lelouch et Pierre Ninet. On en a parlé à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers. C'était Frédéric Tellier, le réalisateur. Et lui, il est au générique, il a fait sa dernière apparition. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut dire sur Jacques Perrin. Bah, il va beaucoup manquer au cinéma, je pense.
Et donc
c'est
voilà.
Sûr. Et
il restera quand même ses réalisations et ses prestations dans différents films. Donc Jacques Perrin, toujours avec nous grâce au cinéma. C'est ça, la force du cinéma, c'est qu'on peut toujours retrouver vivant les gens morts.
Merci Jacques Perrin. Et puis on a une pensée pour sa famille. On a une grosse pensée à Radio Entre-deux-Mers. Toujours, on pense à... C'est triste pour eux, et puis voilà. Donc, bon, ça y est, moi, je commence à être émue encore.
C'est ça, et donc, nous allons maintenant retrouver les films qui sortent cette semaine au cinéma, en débutant notamment par un film d'animation japonais de Masashi Ando. Ça s'appelle Le Roi Cerf.
Le Roi Cerf, le cerf, oui. C'est à partir de 10 ans. Alors, je sais pas, j'ai appelé ma petite copine, Naya, elle verra si elle peut y aller, tout ça. partir de 10 ans parce que ça dure 1h53. Donc, c'est long. C'est long, parfois, pour un enfant. Mais bon, il y a eu quand même 5 nominations, hein, dont 4 au Festival d'animation d'Annecy et une nomination à Gérard Maire. Oh, c'est des jolies nominations, c'est des jolis festivals. J'allais dire festivals, hein. C'est des jolis festivals, ça. Annecy et Gérard Maire. Donc c'est Masashi Ando, oui, le réalisateur, il est animateur, directeur de l'animation, il est directeur de la photographie, il est japonais. On s'en doutait un petit peu quand même, hein, japonais, évidemment. Et puis il a 53 ans, 20 ans de carrière, 7 tournages à son actif. Ah oui, on lui doit des choses très très belles. En 2001, le voyage de Chirio, qui a eu 2 prix et 10 nominations. Il était superviseur des effets visuels là-dessus. Oh, c'est magnifique, ça. En 2011, c'était Lettre à Momo. Il était directeur de l'animation qui a eu 1 prix et 7 nominations. Chaque fois que ce monsieur sort un film, il a 1 prix, une nomination, il a des prix et des... Enfin, bref, il est récompensé à chaque fois, en fait. Et alors, il travaille souvent avec Masayuki Miyagi, qui est un réalisateur japonais et superviseur de l'animation qui a 46 ans. Est-ce que j'ai bien prononcé, là, quand même? Tu es content de la prononciation japonaise?
Tout à fait, oui.
écoute, t'es trop tolérant. Bon, ben, merci, quand même. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est l'histoire de Van, qui était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux Solitaires. Défait par l'empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et il vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteurs d'une mystérieuse peste. Seul rescapé du massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s'enfuir. L'empire de Zol, ne tardant pas à découvrir leurs existences, l'empire de Zol, qui est quand même quelqu'un d'extrêmement méchant, il mandate Oshsal, un prodige de la médecine, pour les traquer afin de trouver un remède. Mais Oshsal et Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible. Eh bien, j'espère que moi, c'est pas la peste qui m'empêche de parler, là. Mon Dieu, la mystérieuse peste. Voilà, le roi sert. Très, très beau. Un peu dur, quand même, hein, pour 10 ans. Ouais, c'est peut-être un peu dur, quand même.
Au niveau collège, on va dire, pour débuter. Oui. Le roi sert, de Masashi Ando. Et maintenant, c'est une réalisation de Claude Zidi Junior que tu nous proposes. Ça sort aujourd'hui et ça s'appelle Ténor.
Ténor, et oui, ça dure 1h40. Oui, Claude Zidi Junior. Oh, mais ça nous dit quelque chose, Claude Zidi Junior.
C'est le fils d'eux.
Eh voilà, encore un artiste dans la famille d'artistes. C'est le fils de Claude Zidi qui a 87 ans aujourd'hui. Et il est le 5e enfant de la famille, pour les petits curieux. Et alors là, il a travaillé sur ce film avec 4 scénaristes. Voilà, c'est son premier long métrage en solo. C'est-à-dire, lui tout seul comme réalisateur. Ah, c'est beau ça. Et alors là, on va dire que c'est l'histoire d'Antoine, qui est un jeune banlieusard parisien, qui suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap, qu'il pratique avec talent, et son job de livreur de sushi. Il croise Madame Loiseau à l'Opéra Garnier lors d'une course. Elle est professeure de chant. Elle détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Il n'a aucune culture lyrique, mais il est fasciné par cette forme d'expression et convaincu, il suit l'enseignement de Madame Loiseau. Il n'a d'autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l'opéra est un truc de bourge loin de son monde. Ma foi. Alors on a dans les rôles principaux Madame Loiseau, c'est Michel Larocque. On la connaît, hein, Michel Larocque. Beaucoup de talent. Et Antoine, c'est MB14. Tu vois qui c'est? MB14, c'est un artiste musical. Hein. Il a 27 ans. En réalité, c'est Mohamed Belkir. Mais on l'appelle MB14. Il est connu sous ce nom-là. Tu le connais peut-être?
Oui, oui.
MB1, oui, MB14. Quand on le voit, effectivement, on sait qu'on le connaît quand même. On a donc Guillaume Duhem dans les rôles principaux, Maëva El Haroussi, on a Stéphane Debac, Roberto Alagna, ah oui, Roberto Alagna, qui joue son propre rôle, qui a une voix extraordinaire qu'on connaît, hein. C'est un grand, grand ténor, Roberto Alagna. Et puis il y a Marie Aupert, qui est une chanteuse lyrique qui est très, très connue dans le milieu du lyrisme, de la musique lyrique. Voilà, donc c'est un film entre le rap et l'opéra. Alors l'Opéra Garnier, en fait, à l'Opéra Garnier, il y a eu un travail pour tourner à l'Opéra Garnier. Ils ont eu un travail de négociation quand même de très longue haleine. Hein. Le tournage, c'était pas évident du tout. C'était sur plusieurs années avec les responsables de l'opéra. Donc ça a été quand même ça a nécessité pas mal de temps de négociation, mais ils y sont arrivés. MB14, alors bon, lui, c'est un rappeur, hein, on le connaît comme rappeur, qui fait ses premiers pas au cinéma avec Ténor, c'est son premier rôle. Il a participé à l'émission The Voice, c'était la saison 5 qui l'a révélé, en fait. Et alors, autour de Michel Larocque et MB14, on trouve de véritables artistes lyriques dans ce film. Alors elle, Michel Larocque, elle est doublée pour les quelques scènes où son personnage chante. Elle a préféré quand même, hein, elle a préféré être doublée. Je pense qu'elle a peut-être raison, finalement. Parce que je crois qu'elle chante quand même, hein, qu'elle a une voix... mais elle ne s'est sans doute pas sentie assez lyrique, je pense. Voilà, Ténor, 1h40. Alors ça doit faire du bien, ce genre de film, je pense. On verra Claude Zidi Junior qui suit les traces de son père.
Ça s'appelle...
On verra ce que ça donne.
Ténor, donc. Et maintenant, nous retrouvons Michael Hirst derrière la caméra pour Les Passagers de la Nuit.
Oui, Les Passagers de la Nuit. J'aime bien ce titre, moi. Ça fait un peu mystérieux comme ça. Ben, c'est un drame qui dure 1h51. Il a eu 9 nominations à la Berlinale 2022. Chouette, la Berlinale, c'est un beau festival aussi. Michael Hirst, oui, qui est un réalisateur scénariste. Il est producteur délégué, il est français. Il a 47 ans, 15 ans de carrière, 8 tournages à son actif et il a 2 prix et 6 nominations. Alors on lui doit, bah oui, en 2018, un drame qui s'appelle Amanda et il y avait Ophélia Cohn dedans et il y avait Vincent Lacoste dans ce drame en 2018. Mais je me demande si on n'en avait pas parlé. Il me semble qu'on en avait parlé là sur Radio Entre-deux-Mers. D'Amanda, ça me dit quelque chose, 2018. Il y avait 4 nominations, dont 2 nominations au César 2019. Et il y avait une nomination au César du meilleur acteur pour Vincent Lacoste, également pour Amanda. C'est le cours tranquille de la vie du personnage principal. Voilà, il a une vie tranquille, tout d'un coup, cette vie vole en éclats lorsque sa sœur aînée décède brutalement. C'était un drame assez passionnant quand même. C'est un beau film. Et puis on est à Paris, on est dans les années 1980. Elisabeth vient d'être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses 2 adolescents, Mathias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit. Est-ce que c'est chez nous qu'elle a pris... Non,
non, pas que je sache, adieu.
Pas que tu saches. Bon, donc c'est pas ça. Je ne pouvais pas m'en empêcher, que veux-tu. Dans ses maisons radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talula, qui est une jeune fille, qu'elle prend en fait sous son aile. C'est une jeune fille un peu désœuvrée. Voilà. Talula découvre la chaleur d'un foyer et Mathias la possibilité d'un premier amour. Tandis qu'Elisabeth invente son chemin pour la première fois, peut-être. Tous s'aiment, se débattent. Leur vie recommencée, point d'interrogation, peut-être. Alors on a Charlotte Gainsbourg dans le rôle d'Elisabeth, la délicieuse Charlotte Gainsbourg, pleine de talent aussi. On a Quito Ryan Richter qui joue le rôle de Mathias. On a Noé Habita, c'est Talula, charmante Talula. On a Megan Northman qui joue le rôle de Judith. On a Emmanuel Béard, on la connaît bien sûr, beaucoup de talent aussi. Didier Sandre, grand comédien. Beaucoup plus de théâtre d'ailleurs, Didier Sandre. Et puis on a Thibault Vincent dans les rôles principaux. Très joli film, Les Passagers de la Nuit. Il y a un beau casting en tout.
Donc Les Passagers de la Nuit de Michael Hirst. Et maintenant, oui, c'est L'été, l'éternité que tu nous proposes, réalisé par Émilie Aucel.
Oui, L'été, l'éternité, c'est du drame, c'est de la romance. C'est un film français, ça dure 1h15. Il y a nommé à Locarno Film International, enfin le festival de Locarno, le festival international, en 2021, pour le prix spécial du jury. Émilie Aucel, réalisatrice, scénariste française, elle a 42 ans, c'est son premier long métrage. Elle s'occupe des décors et des costumes également, Émilie Aucel. En 2013, elle avait réalisé 2 courts-métrages qui ont très très bien fonctionné. Et en 2016, un autre court-métrage qui avait été très bien reçu également. Et c'était, c'était une grande porte ouverte pour un premier long-métrage, en fait. Et là, on parle de quoi, l'été, l'éternité, vivre et aimer du haut de ses 18 ans, plonger dans l'insouciance de l'été, perdre brutalement sa meilleure amie, s'apercevoir que rien ne dure toujours et renaître. Alors on a Agathe Talrich dans les rôles principaux, Marcia Kedi Feujas. On a Mathieu Lucci qui est un acteur professionnel, lui, parce qu'ils ne sont pas tous là dans le film. Idir Azoughli aussi, qui jouait d'ailleurs en 2018, on le connaît, Idir Azoughli, il jouait dans Sherazade. Il avait le rôle principal. On a Nina Villanova aussi, on a Antonin Poteau, ouais, P-O-T-O, hein, c'est pas. Ils sont issus, ces deux acteurs-là, du monde du théâtre, hein, Nina Villanova et Antonin Poteau. Ouais. C'est un film en fait à hauteur d'adolescent, on peut dire ça comme ça, où le monde des adultes n'est pas représenté. Le casting a quand même duré un an. Pour la réalisatrice et son assistante. Ils ont rencontré un peu plus de 150 jeunes. Ces jeunes devaient habiter Marseille ou dans les environs. Et bien, ils ont fini par les trouver. Et ça fait un très joli film, je trouve. C'est titré « L'adolescence dans toute sa beauté mystérieuse et ambiguë ». C'est sûr. Eh oui, on y est tous passés, n'est-ce pas, Damien? On a tous été adolescents.
Eh oui, c'est sûr.
Eh oui. C'était pas toujours évident. L'adolescence est très difficile, parfois. L'été, l'éternité.
Ensuite, ça va être une petite leçon d'amour que tu vas nous donner avec Ève de Boise.
Ah, je veux bien te donner une petite leçon d'amour. Je ne sais pas si je suis bien douée pour ça. Ah, mais c'est le titre. Ah, c'est le titre. Petite leçon d'amour. C'est joli, ça. Ça dure 1h27. C'est une comédie, c'est romancé. Alors, c'est français et c'est suisse. Et c'est, oui, Ève de Boise, mais oui, tu l'as dit, réalisatrice, scénariste, créatrice. Elle est showrunner aussi. Elle a 29 ans de carrière, 11 tournages aussi, oui, à son actif. Alors, elle a eu 2 nominations en 2012 pour Paradis perdu. Elle a eu des nominations au Festival Jean Carmé, d'ailleurs. Nomination pour les seconds rôles. Paradis perdu. Il y avait Olivier Rabourdin, il y avait Pauline Étienne. Olivier faisait le père et Pauline faisait la fille. C'était l'histoire d'une fille de 17 ans qui vit avec son père. La mère est partie depuis un an. Son retour provoque la jalousie et la colère du père. Paradis perdu, très beau film. Alors là, on a quoi? Petite leçon d'amour. Un café parisien. Des copies égarées. La lettre d'amour d'une lycéenne à son professeur de mathématiques. Il n'en faut pas plus à Julie, promeneuse de chiens à ses heures perdues, pour se lancer dans une folle enquête. Elle a peu de temps pour éviter le pire. L'adolescente semble prête à tout. Par où commencer? Retrouver le professeur et l'entraîner jusqu'à l'aube dans une course effrénée. On a Laetitia Doche qui joue le rôle de Julie, excellente. Laetitia Doche. On a Paul Kircher, on a Kim Truong, on a Pierre Deladonchamp, qu'on connaît absolument. On a Laurette Nissen, on a Anouar Cardelas dans les rôles principaux. C'est un très joli casting. Alors en fait, le film est une enquête loufoque, voilà, qui entraîne les personnages dans Paris et sa périphérie. la grande banlieue comprise d'ailleurs. Petite leçon d'amour. Jolie, jolie.
Et maintenant, on nous emmène du côté de Varsovie 88, une affaire d'État de Jan P. Matuszewski.
Eh oui, Varsovie 83. Au début, je me suis demandé, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce titre ? Une affaire d'État, trois nominations à la Mostra de Venise, c'est un drame historique, c'est français. Il y a la République tchèque qui s'y est mise aussi et il y a la Pologne qui s'est mise. Qui s'est mis dan cette histoire. Alors on a Jan P. oui, Matuszewski, qui est un réalisateur scénariste polonais. Il a 38 ans, il a 14 ans de carrière, il a 6 tournages à son actif. Alors il a surtout, il a commencé enfin pendant longtemps des courts-métrages et des séries télévisées également. Et puis en 2016, il a réalisé The Last Family. Il a eu 2 nominations et 1 prix au Festival du film de Locarno pour ce film. C'était le portrait d'une famille hors norme d'artistes polonais dans la deuxième moitié du XXe siècle, The Last Family. Très beau film. Et là, on est à Varsovie, 1983. Le fils d'une militante proche de Solidamosk est battu à mort par la police. Mensonge, menace, le régime totalitaire du général Jaruzelski va tenter par tous les moyens d'empêcher la tenue d'un procès équitable. Alors, on a dans les rôles Tomáš Ziétek. Ce sont des Tchèques, en fait. On a Agnieszka Grochowska, on a Thomas Kott dans les rôles principaux. Un sacré film, quand même. Hein. La Mostra de Venise a apprécié hein, les 3 nominations en 2021. Très, ouais. Eh bien, oui, si vous aimez un peu, mes chéris, si vous aimez un peu les films qui historique quoi, qui tire un petit peu aussi sur la politique d'un pays éventuellement, celui-là est pour vous absolument. Varsovie 83, une affaire d'État.
Et maintenant, donc ça va être avec Susanna Niccarelli que nous retrouvons le film qui s'appelle Miss Marx.
Ah oui, Miss Marx, et oui, qui a été présenté à la Mostra de Venise, on vient d'en parler, 2020, ça dure 1h47, c'est un drame, un biopic, c'est italien et c'est belge. Susanna, oui, Niccarelli, qui est une réalisatrice, scénariste, actrice italienne, elle a 46 ans, elle a 12 ans de carrière et 4 tournages à son actif. En 2009, on lui doit Cosmonauta, qui avait bien fonctionné quand même là-bas en Italie. Et en 2018, elle a réalisé Nico, 1988, 2 prix, 4 nominations au Festival du cinéma européen des Arcs en 2017 et 1 prix et 2 nominations à la Mostra de Venise 2017. Je le recommande, Nico, 1988, très beau film. Et là, Miss Marx. Est-ce qu'on devine quand même dès le départ que ce nom nous rappelle quelqu'un? Miss Marx, eh bien oui, brillante, intelligente et passionnée, Eleanor est la plus jeune fille de Karl Marx. Parmi les premières femmes à lier féminisme et socialisme, elle en fait partie parmi ces premières femmes. Elle participe au combat des travailleurs et aux luttes pour les droits des femmes et l'abolition du travail des enfants. En 1883, elle rencontre Édouard Aveling. Sa vie est alors écrasée par une histoire d'amour passionnée, mais tragique. Ah oui, c'est un film extraordinaire, Miss Marx. Si on connaît Karl Marx, on a envie un peu hein, de connaître l'histoire de sa fille. Alors on a Romola Garry, qui est une actrice britannico-hongkongaise, qui joue le rôle Eleanor, pardon, Marx. On a Patrick Kennedy, qui est un acteur britannique, qui joue Edward. On a John Gordon Sinclair. Ils sont presque tous britanniques, en fait, là. On a Felicity Montagu. On a Philippe Groening. Lui, c'est un acteur allemand qui joue le rôle de Karl Marx. On a Emma Cunniff, qui est une Anglaise également, qui joue Laura Marx, une des filles de Karl Marx et une des sœurs d'Eleanor. Voilà, Miss Marx. Alors, c'est quoi ? Ben, elle est, je l'ai dit, hein, ce Edward Aveling, là, qui est joué d'ailleurs par un acteur qu'on connaît, hein, Patrick Kennedy, quand on le voit, on le reconnaît aussitôt. Et oui, ben, ça va être une folie, quoi. Alors Karl Marx, quand même, pour les petits curieux, 1818-1883, donc il a eu Eleanor, Laura, Henri, Edouard Guy, il a eu Edgar, il a eu Jenny, Evelyn, Frances, ce sont ses enfants, et il était l'époux de Jenny von Fechfallen. C'est un philosophe, hein, Karl Marx, historien, sociologue, économiste, journaliste, théoricien de la Révolution. Communiste prussien, social. Eh oui, il était théoricien d'un... Eh oui, bon, on le connaît quand même un peu, mais bon, c'était pour rafraîchir un peu, nous rafraîchir notre mémoire. Tout le monde le connaît, ben oui, mais est-ce que... C'était titré d'ailleurs, tout le monde connaît Karl Marx. Connaissez-vous Eleanor ? Eleanor, avant-gardiste, socialiste, féministe, révoltée et surtout, malheureusement, oubliée. Voilà. Miss Marx. Ben, Susanna Michael-Rilly, là, a voulu un peu rétablir les choses pour Eleanor. Eh oui, voilà.
Miss Marx, donc.
Oui, joli film.
Et maintenant, on va retrouver Sam Raimi à la réalisation du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Ah oui, bon, il paraîtrait qu'il est très attendu quand même, puisque c'est une suite, hein, évidemment. Le premier est sorti en 2016, Doctor Strange, aventure fantastique bien sûr, et c'était c'est quasiment les mêmes acteurs, puisque c'est Benedict Cumberbatch, qui est un grand comédien, qui joue le rôle de Doctor Strange. C'était Scott Derrickson, réalisateur américain, qui l'avait réalisé le premier. Donc c'était l'histoire d'un talentueux neurochirurgien, hein, qui joue les intermédiaires entre le monde réel et ce qui se trouve au-delà. Il utilise un vaste éventail d'aptitudes métaphysiques pour protéger le multivers. C'est-à-dire, c'est l'univers, en fait, c'est le... Oui, voilà, c'est le multivers, c'est pas mal dit, je trouve, le multivers. En fait, on va dire que c'est l'ensemble des univers qui sont présents concurremment dans le cadre d'une théorie cosmologique donnée. Voilà, c'est un peu... Et donc, lui, nous, on va parler de Doctor Strange in the Multiverse, justement, of Madness. C'est fantastique, hein, c'est de la science, c'est toujours la même chose, toujours de l'aventure. Ça dure 2h06. C'est l'univers cinématographique Marvel qui déverrouille et qui repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyageons dans l'inconnu avec Doctor Strange. Il est aidé par d'anciens et nouveaux alliés mystiques. Il traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers. Et il affronte un nouvel adversaire mystérieux. Donc c'est Sam Raimi, oui, qui le réalise cette fois. Réalisateur, producteur, acteur américain, il a 62 ans. Il a 5 scénaristes avec lui quand même, hein. Et puis, il a 44 ans de carrière, 100 de tournage quand même à son actif, un prix et 16 nominations. Oh, on lui doit des choses qu'on connaît bien, puisqu'en 2002, il avait réalisé Spider-Man avec Peter Parker. En 2004, Spider-Man 2. Et en 2007, on devine, Spider-Man 3 avec Tobey Maguire, l'acteur. Il avait changé d'acteur, là. Voilà. Donc, on connaît bien cet homme. Enfin, on connaît ce... son cinéma, disons. Voilà. Alors, en science, c'est ça, en science, hein, le multivers, c'est l'ensemble des univers présents, quoi. Voilà, bon, c'est un petit peu compliqué comme ça, mais bon. Alors, on a donc le Britannique Benedict Cumberbatch, je l'ai dit déjà, il était dans le premier, bien sûr, c'est toujours lui. On a Elisabeth Olsen, qui est une actrice américaine. On a Rachel McAdams, elle est canadienne, elle. On a Yochli Gomez, qui est une Américaine. On a Benedict Wong, qui est une actrice britannique. Alors, Sam Raimi, là, le réalisateur, il envisage, attention, oh, pour les fans, mes chéris, il envisage un Spider-Man 4, oula, avec Tobey Maguire dans le rôle titre. Il y aura Kirsten Dunst, qu'il apprécie énormément, d'ailleurs, le réalisateur Sam Raimi. Donc voilà, on a, bon, pour les amateurs de Spider-Man, chouette alors, si on a un quatrième bientôt, ce serait quand même sympathique. N'est-ce pas, Damien, tu ne crois pas?
Oui, oui.
2h06, là, quand même, hein, Doctor Strange, The Multiverse.
Of Madness.
Ouais, voilà. Il est très, très attendu, donc, avec des acteurs qui sont vraiment au top pour ce genre de film. Tout à fait. Voilà.
Donc,
eh ben, dès qu'on aura Spider-Man 4, ouais, on en parlera à Radio Entre-Deux-Mers, n'est-ce pas?
Très bien.
Aussitôt.
Okay.
Moi, j'aime bien, moi, Spider-Man. J'aime bien ce personnage. Ah ouais. Mais je suis pas la seule. Je ne suis pas la seule.
Et maintenant, voilà, on va faire un tour du côté de l'Italie avec Michelangelo Frammartino et le film qui s'appelle Il Buco.
Il Buco, bah, le trou, hein, quand on, si on le traduit. Voilà. C'est un, oui, ça dure 1h33, c'est un drame allemand, français, italien. Eh ben oui, ils s'y sont tous mis. Donc, c'est inspiré de faits réels. Ah, voilà. Il y a un prix et 3 nominations à la Mostra de Venise 2021. C'est quand même un prix spécial, le prix spécial du jury pour le réalisateur. C'est un joli prix, ça. Et en fait, voilà, bon, c'est... Et puis, il a aussi été présenté au festival du film Les Arcs. Il a eu le prix de la meilleure photographie en 2021 également. Michelangelo, tu l'as dit, Frammartino, réalisateur, scénariste, producteur italien. Il a 54 ans. C'est son 3e long-métrage. En 2010... Ah oui, en 2004 aussi, oui, il avait réalisé le c'était le quotidien d'un village de Calabre, oui, c'est ça, Il Dono, le cadeau qui avait été présenté au festival de Locarno. Et puis en 2010, on lui doit le Quattro Volte, c'est-à-dire les 4 fois. Ça se passe en Calabre, tout être possède une âme entre notre époque et le passé. Eh oui, un prix et 6 nominations à la Casa de réalisateurs 2010. Curieux, ça, quand même, hein. Tout être possède une âme entre notre époque et le passé. Ouh, c'était mystérieux. Alors, Il Buco, donc, le trou, c'est quand même... ça se passe dans les années 1960. L'Italie célèbre sa prospérité en érigeant la plus haute tour du pays. En parallèle, un groupe de jeunes spéléologues décide, eux, d'en explorer la grotte la plus profonde. À 700 mètres sous terre, il passe inaperçu pour les habitants alentours, mais pas pour l'ermite de la région. Il tisse avec lui des liens d'un genre particulier. Les chroniques d'Il Buco retracent les découvertes et parcours au sein d'un monde inconnu, celui des profondeurs, où se mêlent nature et mystère. Titré « Une méditation incroyablement belle sur la vie », Il Buco réconcilie avec l'humanité. Et dans les rôles, on a Paolo Cossi, on a Jacopo Elia, Denise Trombin, Mila Costi. C'est un drame. Je ne sais pas si j'ai dit allemand, français, italien. Ah, ouais. C'est un beau film. Je voulais absolument en parler parce que Il Buco, ça, en fait, plonge le public dans la même substance que les spéléologues. C'est voilà, quand on le regarde en spéléologie, faut pas que je rate le haut quand même, on ne voit pas les autres spéléologues, ah ben oui, à chaque fois je rate le haut. L'obscurité les fait se déplacer dans l'espace au gré de leurs besoins. Donc quand on regarde le film, le public, on a les mêmes sensations, exactement. La spéléologie, c'est dans le noir, c'est sous terre, c'est dans la boue. Les spéléologues sont habillés plus en fait comme des nettoyeurs de rue que comme des athlètes. Voilà, c'est ce que nous dit le réalisateur, ça. Alors, la deuxième grotte la plus profonde du monde, oh, ben, je suis contente de le savoir, je n'irai pas au fond, c'est le gouffre du Bifuto. Tu ne le savais pas non plus, Damien?
Non, je ne savais pas.
Que c'était... Non, bon, moi non plus, je n'irai pas. Le réalisateur a rencontré Giulio Gekel, pardon. Ouais. Giulio Gekel, qui est un Italien. Il a 82 ans et c'est lui qui a dirigé la première expédition en 1961 et qui est devenu pour lui, justement pour le réalisateur, une source d'inspiration. Il a écouté cet homme et ça lui a donné beaucoup d'idées pour le film, inspiré de faits réels, hein, je l'ai déjà dit au début. Il Buco. À moi, il m'a semblé que c'était vraiment intéressant. C'était chouette, quoi. Voilà.
Il Buco.
Ouais.
Et donc maintenant, avec Omar Zuniga Hidalgo, on retrouve Los Fuertes.
Oui, la Suarez, décidément. Les plus forts, hein, on traduit quoi, les plus forts. Sélection officielle au festival Chéri Chéri et trois autres festivals. On connaît quand même le festival Chéri Chéri, c'est un peu particulier. Ça dure donc, le film dure 1h38, c'est drame, c'est romancé. Tu l'as dit, Omar Zunaga Hidalgo, réalisateur, scénariste, producteur, chef, monteur. Il est chilien, cet homme, il a 37 ans. Ouais. Et c'est son deuxième long-métrage. Il a 5 ans de carrière, 4 tournages, dont 2 longs-métrages. Le premier et le deuxième, Los Fuertes. Le premier, c'était en 2014, Color of Time. C'était un biopic sur l'auteur américain C.K. Williams. C'était sur 40 années de la vie de cet auteur. Et c'était James Franco et Jessica Chastain qui étaient dans ce film. Deux grands comédiens, deux grands acteurs. Ben, Charles Kenneth Williams, juste pour nous rafraîchir un peu la mémoire, c'est un poète, essayiste, traducteur. Il est professeur d'université. Il était né en 1936 et il est décédé en 2015. Alors là, Los Fuertes. Oh, alors on nous dit que c'est l'histoire de Lucas se rend chez sa sœur dans un village reculé du sud du Chili. Oui, c'est plutôt Lucas, hein, le Chili. Avant de s'en aller vivre au Canada. Là, face à l'océan et au milieu de la brume, il rencontre Antonio, maître d'équipage sur un bateau de pêche local. Quand une relation amoureuse intense surgit entre eux, ils se retrouvent obligés d'affronter leur réalité et de briser leur solitude en apprenant à faire confiance aux gens qui les entourent. Alors que les vagues frappent la baie, leur force et leur indépendance deviennent inébranlables face à la marée. Alors on a Antonio Altamirano, c'est un acteur chilien qui joue Antonio. C'est Samuel González, c'est un chilien également qui joue Lucas. On a Marcela Salinas, actrice chilienne. Et on a Rafael Contreras, qui est un acteur chilien dans les rôles principaux.
Los Fuertes.
Ouais, c'était joli, voilà. Ouais.
Eh bien, et donc on continue toujours avec les films qui sortent cette semaine et un film notamment de Jack Rawal, Neil Tamrong, ça s'appelle Anatomy of Time.
Je suis désolée Damien, parce que cette semaine on a des noms quand même pas très, un peu compliqués quand même, hein, noms de réalisateurs, c'est pas facile. Oui, Anatomy of Time, oui, mais oui, qui a été présenté à la Mostra de Venise 2021, il y a 3 nominations, justement. Ça dure 1h58, c'est un drame français, thaïlandais, singapourien et hollandais, tout le monde s'y est mis aussi. Alors il y a un avertissement, hein, des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Bon, ça c'est noté. On a 2 fragments de la vie d'une femme. Maem est une jeune femme dans la Thaïlande rurale des années 1960. Son père, horloger, transmet sa passion à sa fille, tandis que les tensions entre la dictature militaire et les rebelles communistes s'exacerbent. Elle est courtisée par 2 jeunes hommes très différents. Il y a un faible conducteur de pousse-pousse, qui est littéralement mis de côté, par un chef d'armée, le deuxième, ambitieux et impitoyable. 50 ans plus tard, le chef de l'armée est devenu un général en disgrâce. Maem soigne son mari violent pendant ses derniers jours et se remémore son passé rempli de pertes, de souffrances et de joie. Alors, dans les acteurs, on a... Alors là, c'est une actrice thaïlandaise qui joue le rôle de Maem quand elle est jeune. C'est Prapa Monton Elacham. Et quand elle est âgée, elle est jouée par une autre actrice thaïlandaise, Traveritana Lilanuya. Et l'officier jeune, lui, est joué par Vanlop Rangamchat. Alors là, je ne te dis pas l'accent. Je vais m'y mettre, hein. Je vais me mettre au chilien dès qu'on a fini. Et l'officier âgé, le même officier mais plus âgé, est joué par Sora Bodé, Jan Siri. Bon, des acteurs apparemment qui sont connus quand même au Chili. Bon, nous, on les connaît beaucoup moins, mais justement, on est là pour les découvrir, les faire découvrir à nos auditeurs. Alors, tu as parlé du réalisateur Jack Rawal, Neil Tamrong. C'est son deuxième long métrage. Réalisateur, scénariste, monteur thaïlandais. Il a 45 ans. En 2015, son premier long métrage avait été primé lui, il a peut-être primé, je ne sais pas, primé au festival de Rotterdam. Ça s'appelait Point de fuite, Vanishing Point. Et alors, c'était l'histoire de deux hommes, un accident de voiture, un crime au fond des bois, et les pièces du puzzle s'assemblent. Voilà, c'était quand même... Alors, le film Anatomy of Time, on va en parler là, est titré Un enchantement. J'aime bien qu'on le sache avant. Donc, on a dit qu'il y avait on a déjà parlé, du synopsis, mais on a dit qu'il y avait, je répète quand même, des scènes, des propos, des images, qui peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ça, il faut quand même bien le noter. C'est important, je pense. Parce que, effectivement, il y a des scènes. Alors, l'histoire commence dans les années 60. Ils sont jeunes. L'officier assoiffé de pouvoir ne se doute pas qu'il sera disgracié à la fin de sa vie. La nature est un personnage important dans le film. C'est une nature vivante qui rappelle à Maëm d'où elle vient et où elle doit aller. Ah, très joli film. Anatomy of Time.
Et maintenant, c'est Ben Sharrock à la réalisation du film Limbo.
Mais oui, Limbo. Alors, Limbo, je ne savais pas trop, c'est l'incertitude, c'est l'attente. Limbo, c'est ce que ça veut dire. Le film a fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes en 2020. Il y a eu 2 prix et 3 nominations au Festival du film britannique de Dinard en 2021. Ils ont reçu le Hitchcock d'or du public, pour le réalisateur Ben Sharrock. Alors c'est un 1h44 le drame. Alors c'est le Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni, on rappelle, c'est l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Ça réunit à peu près tout ça. Donc Ben Sharrock, réalisateur scénariste écossais, il a 36 ans, c'est son 2e long métrage. Puisque le premier en 2015, c'était Picadero, qui avait été présenté au festival international de San Sébastien, nommé meilleur nouveau réalisateur et projeté dans 40 grands festivals. Et il a remporté de nombreux prix son premier film, qu'il a pu faire monter son 2e long métrage. Il a eu aussi des courts métrages qui ont été très très récompensés avant le premier long métrage. Donc là, le synopsis sur une petite île de pêcheurs en Écosse. Un groupe de demandeurs d'asile attend de connaître son sort face à des habitants loufoques. Et des situations ubuesques, chacun s'accroche à la promesse d'une vie meilleure. Parmi eux se trouve Omar, un jeune musicien syrien qui transporte où qu'il aille. L'Oad, c'est l'instrument qui a été légué par son grand-père. Donc il ne le quitte jamais, son instrument. Eh oui. Alors on peut dire quand même ce que c'est qu'un oud, c'est un instrument de musique à cordes pincées qui est très répandu dans les pays arabes, en Turquie, en Grèce, en Arménie et en Azerbaïdjan. Voilà. Oud. Voilà, je voulais voir ce qu'était cet instrument. Il est très joli d'ailleurs. Alors on a dans les rôles, on a Amir El Masri, qui joue le rôle d'Omar, qui est un acteur britannico-égyptien. En fait, c'est une star montante, britannico-égyptienne. Il est très connu et il commence à faire parler de lui. On a Vikash Bey aussi, qui est un acteur américain. On a Ola Eribili aussi, américaine. Les Britanniques. On a Kwabena Ansah, qui est un acteur britannique aussi, dans ce film. Alors, le film est centré en fait sur 4 demandeurs d'asile qui séjournent sur une île éloignée en Écosse. Ils suivent des cours de sensibilisation culturelle et ils attendent le traitement de leur demande d'asile. En fait, c'est un film sur l'identité d'un jeune homme et la difficulté de ce dernier à en faire deuil. L'histoire d'une personne qui n'avait pas fait le choix délibéré de devenir un réfugié et dont la personnalité ne se résumait pas à son statut de réfugié. Je voulais montrer, nous dit le réalisateur, à quel point l'étiquette de réfugié peut être destructrice de l'identité individuelle. Limbo, le film, rend la crise des réfugiés plus proche de nous et humanise les personnages. Enfin, le film a été tourné dans les îles Wist, les îles rugueuses d'ailleurs, Wist, qui est entre le 15 et le 18 novembre 2018. En fait, les Wist, c'est un chapelet de 6 îles basses, des Hébrides extérieures. Elles se trouvent à plus de 40 km au large des côtes de l'Écosse et elles abritent une population de 5000 habitants. Chapelet de 6 îles. Je trouvais ça assez passionnant quand même. Je pense que c'est un très beau film, j'avais envie d'en parler. J'ai dit que c'était 1h44, oui, je pense. L'incertitude, c'est ça, Limbo. Ils attendent.
Voilà, donc, Limbo. Et pour terminer, oui. Ça va être Paul Anthony Mill que l'on retrouve, oui, pour le film Laissant les morts engloutir les morts.
Oui, le titre était quand même un peu... Il m'a laissé un petit peu songeuse. Laissant les morts engloutir les morts. 1h36, c'est un drame français. Tu l'as dit, Paul Anthony Mill, réalisateur, directeur de la photographie, scénariste, co-producteur français. Il a 9 ans de carrière et 7 tournages. Eh bien, c'est l'histoire de l'évêque Cochon, ce fameux évêque dont on se souviendra toujours, parce que quand on en parle déjà à l'école primaire, on sait que c'est lui qui a mis Jeanne d'Arc sur le bûcher. Donc, c'est l'évêque Cochon qui préside au procès de Jeanne d'Arc et qui est en proie à une crise de conscience majeure, tu m'étonnes. Sous la pression des Anglais, il se doit de condamner la pucelle, mais des doutes l'assaillent quant à la culpabilité de la jeune femme. Alors, c'est exclusivement au cinéma à partir du 4 mai 2022, donc. On a Stéphane Auvray-Norrois dans les rôles principaux. Olav Benesvet, qui est un acteur norvégien. On a Stéphane Kohl, on a Jean Perrelade, on a Pierre Mille, qui doit être de la famille de Paul Anthony, je pense. Et c'est titré, ça c'est important, Le procès de Jeanne d'Arc comme on ne vous l'avait jamais raconté. Un choc esthétique et intellectuel, des images d'une grande beauté et des acteurs étonnants, c'est profond et énigmatique. Moi, je me suis dit, on ne peut pas passer à côté de ce film. Alors, pour les fans de Jeanne d'Arc, etc., eh bien, il est pour eux, ce film. Même si on n'est pas fan de Jeanne d'Arc, il vaut vraiment la peine. Laissons les morts engloutir les morts. Et voilà. Nous avons terminé.
Ok, ben très bien. Merci beaucoup pour tous ces films qui sortent aujourd'hui au cinéma. Et on se retrouvera mercredi prochain à 11h pour une nouvelle semaine cinématographique. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver les podcasts sur le site de la radio www.r2m.com.
Et oui, voilà. Bon, ben, au revoir à tous. Au revoir à Damien, quand même.
Au revoir, Anne.
Merci pour ton soutien. Et puis vous, mes chers auditeurs, ben, écoutez... passez une bonne semaine, soyez heureux le plus que vous pouvez. Hein. Profitez de la journée, c'est ce que je vous dis à chaque fois, carpe diem. Et surtout, 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 n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Yeux, tu sais.